Il me semble que pour un chrétien, sa propre existence, celle de l'Église, celle de l'humanité, celle du cosmos tout entier, se situe à l'intérieur de l'Eucharistie. Tous les sacrements, et l'Écriture aussi, qui est au fond elle-même un sacrement, il y a un aspect sacramentel de la parole de Dieu, et je crois que c'est à travers cet aspect sacramentel de la parole de Dieu que nous pouvons comprendre le mieux le mystère de la réforme dans l'histoire de l'Église, tous les sacrements et l'Écriture sont des aspects de la sacramentalité globale de l'Église comme sacrement du crucifié ressuscité. Or, le cœur, le foyer, le soleil de cette sacramentalité, c'est l'Eucharistie. Et on pourrait dire que c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. C'est l'Eucharistie qui fait de l'Église, au-delà de toutes les limitations sociologiques dont nous pouvons souffrir parfois, qui fait de l'Église le corps du Christ, d'où jaillit la puissance de la vie, d'où jaillit la puissance de la résurrection. L'Eucharistie n'est pas un sacrement dans l'Église, d'ailleurs la répartition des sacrements selon le septenaire est une classification latine relativement tardive. Et on pourrait dire que l'Eucharistie est le sacrement de l'Église elle-même. Elle la constitue. Il y a une sorte là de circularité bienheureuse où on peut dire que l'Église fait l'Eucharistie et que l'Eucharistie fait l'Église. L'expression paulinienne de corps du Christ à propos de l'Église ne peut être comprise en dehors de l'expérience eucharistique, de la toute première Église. Les églises du Nouveau Testament, et spécialement celles dont l'origine remonte à Paul, ont véritablement identifié le rassemblement eucharistique et l'Église. Les deux mots sont pratiquement interchangeables. Quand Paul dit s'assembler, s'assembler en un même lieu, ou quand il dit le repas du Seigneur, ou quand il dit l'Église, ou quand il dit l'Église de Dieu qui est ici ou qui est là, il s'agit toujours du rassemblement eucharistique. C'est pourquoi j'essaierai d'aborder un petit peu ce sujet immense sous trois angles. D'abord, je parlerai de l'Église dans l'Eucharistie. Ensuite, je parlerai davantage de l'Eucharistie dans l'Esprit-Saint. Et pour jargonner, je parlerai de l'épiclèse et de la parousie eucharistique. L'épiclèse, ça signifie la supplication, c'est la prière par laquelle nous demandons, le prêtre demande en rassemblant la prière de tous, demande au Père d'envoyer son Esprit Saint pour intégrer le pain et le vin au corps et au sang du Christ et nous intégrer encore du Christ par eux. Et enfin, je dégagerai quelques conséquences dans le domaine de l'ecclésiologie et dans le domaine de la spiritualité. Tout d'abord, dans l'Église, dans l'Eucharistie. L'Église dans l'Eucharistie, entrer dans l'Église Eucharistie, c'est entrer dans une triple participation, triple et unique, dans une christification, dans une pneumatisation, ça vient tout simplement du mot qui signifie en grec l'esprit, l'Esprit Saint, pneuma, et enfin dans l'existentialité trinitaire, dans l'amour trinitaire. Christification tout d'abord. Tous les récits de la scène sont d'accord sur un point. Lorsque Jésus explique la signification de ce repas ultime, décisif, il identifie le pain et le vin à son corps et à son sang. Et en même temps, simultanément, inséparablement, il relie cette identification à autre chose. Il dit, c'est pour ou à la place de une multitude, pour à la place de vous. C'est pour, c'est à la place de qu'il s'offre lui-même. Déjà, l'Eucharistie, le Jeudi Saint, c'est le Vendredi Saint et c'est Pâques. On ne peut pas séparer. Il y a une extraordinaire, une totale continuité. C'est le mystère du sacrifice. Sacrifice qui ne signifie pas du tout que le Père avait besoin de la souffrance du Christ pour apaiser son courroux, mais qui signifie que le Christ prend tout en lui pour l'offrir au Père et sacrifier, faire sacré, rendre saint, tout sanctifier. Le sacrifice est un sacrifice de sanctification. c'est un sacrifice de réintégration. Nous avons une double tradition biblique pour cette identification du Christ et de la multitude. La tradition du serviteur de Dieu et la tradition du Fils de l'homme. Tout d'abord, la tradition biblique du serviteur souffrant de l'Eben Yahvé, qui prend sur lui les péchés de la multitude, dit Isaïe, qui s'identifie à la multitude, et on a parlé, les exégètes ont parlé d'une manière un peu, je trouve un peu grossière, de personnalité corporative du peuple de Dieu dans le serviteur souffrant. Personnalité corporative, c'est plutôt une personnalité englobante et communiante. Paul le dit bien, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Non, vous voyez, communion, mais déjà est introduit la dimension de communion au Christ et par là même de tous les hommes. Puisqu'il n'y a qu'un pain, continue-t-il, puisqu'il n'y a qu'un pain, à nous tous, nous ne formons qu'un corps, car tous nous avons part à ce pain unique. Et les hymnes liturgiques primitives, les plus anciennes prières eucharistiques, se réfèrent toujours aux serviteurs de Dieu comme serviteurs souffrant, au Christ crucifié, comme englobant la multitude. Et c'est aussi la tradition du Fils de l'homme, dans l'évangile de Jean en particulier. La figure du Fils de l'homme ne signifie pas seulement que le Christ est vrai homme, vrai Dieu et vrai homme, comme dira le Concile de Chalcédoine. La figure du Fils de l'homme, et c'est une notion glorieuse, une notion eschatologique, n'est-ce pas, de l'homme céleste dont il est question, en particulier dans le livre de Daniel. Et là aussi, c'est une personnalité englobante de la nation des saints du peuple de Dieu. Le chapitre 6 de Jean se rapporte certainement à l'Eucharistie et il est dominé par cette figure du Fils de l'homme qui donne la nourriture qui demeure en vie éternelle. Il parle, vous vous rappelez, du vrai pain. C'est la figure de symbole de la manne, le vrai pain descendu du ciel qui n'est rien d'autre que le Fils de l'homme. L'Eucharistie, c'est, dit-il, la consommation de la chair du Fils de l'homme. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et c'est comme tel que le Christ explique qu'il incorpore la multitude. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Les deux traditions, vous voyez, convergent dans l'Eucharistie. La multitude devient une, le Christ prend en lui, dans son unité, cette multitude. Les pères de l'Église ont commenté cette approche intégrante, unifiante, de la manière la plus réaliste. Ils disent que les fidèles sont incorporés au Christ, consanguins au Christ, sont des expressions de Paul. Paul a été obligé de forger des adjectifs inédits avec le préfixe syn, sun, qui signifie avec, n'est-ce pas, concorporel, consanguin, une même plante, n'est-ce pas, syn phytos. Tous ces adjectifs expriment cette intégration véritablement la plus réaliste et ce grand thème que vous trouvez chez les pères de l'homme unique en une multitude de personnes. Cet homme unique qui nous apparaît déjà dans le récit symbolique de la Genèse où Adam, voyant Ève, dit « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair ». Mais il ne s'agit pas tellement ici du mystère du masculin et du féminin, mais simplement du singulier et du pluriel. Cet homme unique a été en quelque sorte, et il est sans cesse par nous brisé par notre péché, brisé par la mort, brisé par la haine et par l'incompréhension. Et cet homme unique est en quelque sorte recréé en Christ par l'amour et par la résurrection. Jésus n'a pas un moi humain, c'est-à-dire un moi qui serait un moi plus ou moins égolatrique. Le moi, le sujet de l'humanité très concrète de Jésus, c'est la personne même du Fils de Dieu. C'est un de la Sainte Trinité. Et ainsi, le Christ n'est séparé de rien, n'est séparé de personne. Il est uni au Père et à l'Esprit, et en même temps, il est uni de la même manière à nous tous. C'est cela le miracle qu'exprime si bien le dogme de Chalcédoine, qu'il est un seul avec le Père et l'Esprit dans sa divinité, et qu'il est un seul avec tous les hommes dans son humanité. Son humanité pénétrée par le feu de la nature divine, cette humanité est pleinement englobante. Dans le Christ habite corporellement la plénitude de la divinité, dit Paul, et on pourrait dire habite aussi corporellement en lui la plénitude et l'implénitude de l'humanité. Cette incorporation de l'humanité s'exprime ultimement dans le mystère de la croix. Dans le mystère de la croix où toute notre angoisse, tous nos doutes, toute notre révolte, toute notre séparation, tout le cri de Job de l'histoire sont assumés par le Christ. Quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme si un instant, n'est-ce pas, entre Dieu et Dieu s'interposait toute l'angoisse, toute la détresse de l'humanité. Mais comme rien ne peut s'interposer entre Dieu et Dieu, entre le Père et son Fils, alors tout se retourne, tout se consume, c'est là que s'accomplit le sacrifice, c'est là que descend véritablement le feu de l'Esprit pour remplir cet abîme qui était l'abîme de l'enfer. Avec l'ascension, l'humanité est glorifiée à travers la croix du Seigneur. Cette humanité, tissée de notre chair et de toute la chair de la terre, se trouve présente au sein même de la Trinité avec ses plaies. Et c'est par ces plaies lumineuses que désormais nous vient la vie. Et puis c'est la Pentecôte, l'événement qui ne s'achèvera qu'à la parousie en s'accomplissant. Et cette humanité déifiée et déifiante, ce corps rempli du feu de l'Esprit Saint, cette humanité qui est déjà, cette humanité sacrement, cette humanité qui fait tout sacrement, cette humanité qui fait du monde un sacrement, elle vient à nous par l'Eucharistie. L'Eucharistie nous incorpore à ce corps de Dieu, dit un père de l'Église, et le mot « corps » ici désigne bien entendu l'humanité. Par là, disent les pères, les communiants participent à la nature divine, pour reprendre une expression d'une des lettres de Pierre. Et Maxime le Confesseur peut écrire « L'Eucharistie transforme en elle-même, de sorte que les fidèles peuvent être appelés Dieu, parce que Dieu tout entier les remplit eux-mêmes tout entier. » Donc, christification, mais aussi pneumatisation. Le corps du Christ, dit Paul, est un corps pneumaticon, c'est-à-dire un corps saturé de la puissance de vie de l'Esprit-Saint. Un corps spirituel, le corps spirituel, à condition de ne pas donner au mot spirituel un sens banal où l'esprit s'oppose à la matière. Il ne s'agit pas d'opposer l'esprit à la matière, l'esprit c'est le souffle vivifiant, et le souffle vivifiant vivifie aussi bien l'âme que le corps, vivifie la matière elle-même. Et ce soma pneumaticon, ce corps pneumatique du Christ, est le lieu d'une Pentecôte perpétuée. Pensez au rôle de l'esprit dans le discours des adieux, dans l'évangile de Jean, ce discours qui jaillit de l'expérience eucharistique de l'Église. L'esprit, c'est le consolateur qui est donné pour le temps qui va s'écouler entre le départ visible du Christ, cette sorte d'absence qui devient présence, mais présence dans l'esprit, justement jusqu'au retour du Christ, jusqu'au second avènement, jusqu'à ce qu'il vienne, comme dit Paul en référence à l'Eucharistie. Pendant tout ce temps, c'est l'esprit qui va rappeler à l'Église tout ce que le Christ a dit, tout ce que le Christ a fait, tout ce que le Christ a été et reste dans l'éternel présent de la Trinité. Et aussi, c'est celui qui annoncera les choses à venir, l'esprit de prophétie. L'esprit nous rappelle, le Christ rappelle au sens le plus fort, nous rend présent, il rend présent le Christ à l'Église, et par là même, il anticipe l'ultime. Il anticipe l'ultime, puisque le Christ, c'est non seulement celui qui est venu, mais celui qui vient, celui qui accomplit tout. Et il ne faut jamais oublier en arrière-plan que toute la Christologie de Saint Luc, par exemple, déjà, toute la Christologie patristique en général, est une Christologie constituée dans l'Esprit Saint. Dans la Bible, le Christ, nous ne le voyons exister que dans l'Esprit. L'Esprit permet l'incarnation du Verbe, l'Esprit constitue l'onction messianique du Verbe incarné. Ce sont les premières paroles de Jésus, premières paroles publiques. Il cite le prophète, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est dans l'Esprit qu'il tressaille de joie et bénit le Père. Vous voyez que Nietzsche avait tort quand il disait que le Christ Jésus était mort trop jeune et que c'est pourquoi jamais on ne le voyait rire dans les évangiles. Il tressaille de joie sous l'influence de l'Esprit. C'est dans l'Esprit qu'il fait ses miracles qui sont autant d'annonciations et autant d'affleurements, pourrait-on dire, du royaume. C'est dans l'Esprit qu'il est ressuscité. Et le rassemblement eucharistique est donc un rassemblement charismatique, un rassemblement dans l'Esprit. Et Paul nous dit que le lieu où se réalise par excellence le caractère charismatique de l'Église, c'est le rassemblement eucharistique. Il suffit de lire la première lettre aux Corinthiens, du chapitre 10 au chapitre 14, avec une longue instruction que donne l'apôtre sur la vie charismatique, et elle est présentée dans le contexte uniquement de l'assemblée eucharistique. La vie charismatique fait partie de l'eucharistie, et c'est l'eucharistie qui est par excellence charismatique. Nous tous qui participons au même pain et au même calice, fait que nous soyons unis les uns aux autres dans la communion de l'unique Esprit, dit la grande intercession d'une des grandes liturgies de l'Orient chrétien, qui est la liturgie de Saint Basile. Car le plus grand des charismes est l'amour. Et c'est pourquoi christification, pneumatisation, cela nous introduit à la participation à l'amour trinitaire. Par l'Esprit qui nous mène au Fils, le Fils nous élève vers le sein du Père, et l'Eucharistie est donc ce mouvement théocentrique par l'Esprit dans le Fils vers le Père. La liturgie est ce culte d'adoration où l'homme sort de son narcissisme et où il dirige sa vue et son cœur, oh les cœurs, vers la splendeur de la sainteté, vers la splendeur de Dieu. Eucharistie, ça veut dire tout simplement merci. Aujourd'hui encore, en grec, pour dire merci, on dit « Ευχαριστώ ». Et dans ce merci, dans cette action de grâce, se fait la rencontre, et dans cette rencontre, la participation. Nous avons là le caractère absolument fondamental du mystère trinitaire, qui est la révélation plénière de la personne, et pour sortir de nos petits conflits théologico-philosophiques actuels, qui est l'identification de l'être et de l'amour. Dieu est amour, dit Jean. Notre participation eucharistique au corps du Christ nous fait entrer dans la réalité même de la Trinité. L'homme a été créé à l'image de Dieu, il est appelé à la ressemblance. Toute sa destinée sera ce tâtonnement de l'image dont la puissance est en lui et qui peut d'ailleurs diriger cette puissance vers des objets qui ne sont pas absolus. Et c'est alors ce qu'on appelle les passions ou les idolâtries. Mais si petit à petit le dynamisme de l'image tend vers son modèle, alors l'image devient ressemblante. Et il s'agit donc d'aller de l'Eucharistie reçue à l'Eucharistie intériorisée, à l'Eucharistie faite homme, à l'homme qui non seulement reçoit l'Eucharistie, mais à l'homme qui devient un homme eucharistique, et qui est donc une personne en communion capable de bénir tout être, toute chose, la vie et la mort. L'incarnation a récapitulé l'unité humaine, l'humanité désormais, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, est le corps du Christ, et l'Église, pars pro toto, la part pour la totalité, est le lieu où un certain nombre d'hommes rendent grâce, remercient, font d'Eucharistie pour cela, font d'Eucharistie pour tous, où une partie de l'humanité prend conscience de son être trinitaire, de son existentialité trinitaire. C'est ce moment où des hommes se confessent et se découvrent membres du corps du Christ et donc membres les uns des autres dans le même corps. C'est cette double consubstantialité que j'évoquais tout à l'heure. La communion aux choses saintes, qui ne sont pas des choses, mais qui sont la présence et la donation de la vie de quelqu'un, et la communion des saints s'identifie. Et en grec comme en latin, c'est la même expression. Communio sanctorum, sanctorum, ça peut être au neutre, et c'est la communion au saint don, au pain et au vin christifié, et c'est aussi la communion des saints. L'un ne va pas sans l'autre. Athanase d'Alexandrie, en écho à une méditation sur la Trinité, disait « Nous sommes tous parties intégrantes les uns des autres, puisque nous sommes tous identiques l'un à l'autre et ensemble. » Et c'est ça la signification du baiser de paix. Quand nous échangeons la paix dans une célébration eucharistique, quand dans les grandes liturgies utilisées en Orient, nous disons que nous confessons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il faut le faire d'un même esprit. Pour pouvoir confesser cette réalité trinitaire, il faut se disposer de cette manière trinitaire, unitrinitaire, dans l'amour, pour que l'Eucharistie puisse avoir lieu. L'Eucharistie est d'abord ce sacrement de l'Assemblée qui se prépare, en échangeant la paix, à entrer dans la plénitude de la Trinité au moment de la communion. Cette unité, bien entendu, n'existe que dans la diversité irréductible des visages, dans la diversité irréductible des personnes. En Christ, nous sommes un seul être, une seule vie, un seul corps. Je vivrai l'amour des autres, comme disait Jean Cayrol, écrivain contemporain. Mais le Christ est aussi un visage tourné tout entier vers chaque visage humain. La face de Dieu éveillant la face de l'homme. Le Dieu fait homme, permettant à l'homme de se déchiffrer, pourrait-on dire, en Dieu. Et à la Pentecôte, quand tous sont ensemble, en Christ, unité, les flammes de l'Esprit se divisent, une pour chacun, une flamme illuminant chacun dans ce qu'il a de plus unique et lui ouvrant l'espace infini de sa liberté créatrice. À l'image et pour la ressemblance de l'existence trinitaire, la personne est donc appelée à assumer d'une manière unique, en communion avec toutes les autres, cette humanité renouvelée, régénérée, unifiée en Christ, ce cosmos renouvelé, régénéré, unifié en Christ. La conscience de soi devient alors conscience de la communion. Un grand spirituel byzantin, Nicolas Cavazilas, disait que depuis l'incarnation, la conscience de soi passe nécessairement par la conscience du Christ, puisque le Christ s'est fait notre alter ego. Je ne puis donc être conscient de lui, de moi, que à travers lui, et par là même à travers tous. C'est le mystère tri-un de la vie divine qui devient alors le mystère proposé à la vie humaine, et pas seulement proposé, donné, réellement donné par le baptême et l'Eucharistie. Il nous faut le déchiffrer un peu à travers toute notre vie, afin qu'il soit un comme nous sommes un, dit Jésus à son Père. C'est dans l'Eucharistie que la prière sacerdotale du Christ est vécue par l'Église. L'homme est à l'image du Dieu trinitaire. Dans sa nature, l'Église communion est inscrite comme son ultime vérité. Tous les hommes sont appelés à se réunir autour de la même et unique coupe, à s'élever au niveau du cœur divin, à prendre part au repas messianique, à devenir un seul temple agneau. J'en arrive à mon second point, qui est ce que j'ai intitulé de manière un peu pédante, épiclèse et parousie. Je voudrais parler du miracle eucharistique, évoquer la relation que nous propose l'Eucharistie entre le temps et le royaume, et dire quelques mots de l'épiclèse, plus précisément. Les pères ne cherchent pas à expliquer l'Eucharistie. Ils posent l'équation pain égale corps, vin égale sang du Christ. Ou, si vous voulez, quelquefois, ils diront « le pain se transforme en corps, le vin se transforme en sang ». On trouve aussi quelques expressions où intervient dans un sens très fort le mot « symbole », mais dans un sens très fort, où véritablement le symbolisé est présent dans le symbolisant. Mais comme c'est une expression qui pouvait être un peu douteuse, elle a été très rapidement abandonnée. Mais quand ils disent « pain égale corps, vin égale sang », il se réfère toujours à l'humanité pneumatisée du Christ, à son corps crucifié et transfiguré dans l'Esprit-Saint. Le miracle de l'Eucharistie, c'est la transformation immédiate et totale du pain et du vin au corps et au sang du Christ. Il y a là un ultra-réalisme de l'acte de foi. Il n'y a absolument rien à discuter, il n'y a absolument rien à tenter d'analyser, n'est-ce pas? Et Le miracle eucharistique n'est pas physique comme celui de Cana, mais au plein sens du mot métaphysique, le pain et le vin intégrés hors des limites de ce monde, dans le monde transfiguré du royaume. On ne peut pas tenter d'analyser chimiquement le miracle en fonction de nos sens. Il faut plutôt accuser nos sens de ne pas pressentir la réalité ultime. Mais nous avons tout de même des choses très curieuses. Par exemple, dans les grandes liturgies byzantines, après la communion, les fidèles chantent, ou plutôt le chœur chante à la place des fidèles, pars pro toto, là aussi, nous avons vu la vraie lumière. Nous avons vu la vraie lumière. Il faut toujours tenir compte du fait que la vision, l'audition, la mendication, tous les sens communiquent dans le cœur. Et que donc, communier au corps et au sang du Christ, c'est voir la vraie lumière. Mais il faut aller plus loin. Certains grands spirituels orientaux, je pense à Saint Grégoire Palamas, ont dit « certains saints ont vu la lumière s'écoulant du calice eucharistique comme un océan de lumière. » Vous voyez cette expérience. Alors, je vais faire une réflexion, je vais m'amuser, si vous voulez, à mes dépens. Très souvent, les orthodoxes ont pris l'habitude de se penser à contrario par rapport aux catholiques. Alors, ils disent, mais la vénération, l'adoration du Saint-Sacrement, c'est pas bien, parce que le sacrement, c'est fait pour être mangé, n'est-ce pas ? Mais quand un saint voit un océan de lumière qui rayonne du sacrement, ça ressemble beaucoup à l'adoration du Saint-Sacrement. Enfin, je ne dis rien de plus, n'est-ce pas ? Bien. Je dirais que les pères ébauchent ici une cosmologie du corps de gloire. Le monde a été créé pour devenir dans l'offrande de l'homme eucharistique. Mais il y a cet état de séparation et de mort, il y a ces modalités meurtrières du temps, séparatrices de l'espace, ces catégories logiques qui opposent ou qui confondent. Il y a cette opacité de l'homme et du regard de l'homme et cette opacité du monde. Ce que les hommes ne parviennent pas à faire, bien qu'ils le tentent sans cesse, et c'est peut-être pourquoi existe toute la culture et tout l'art de l'humanité, cette offrande paradisiaque, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? Ce que les hommes ne parviennent pas à faire, le Christ, qui est là-dedans ultime, définitif, l'a accompli. Et il nous permet, alors, maintenant, de l'accomplir en lui, sans être consumé par l'épée de feu qui nous interdit d'entrer dans le paradis. À travers l'Eucharistie est la porte qui nous permet d'entrer dans les soleils de Van Gogh sans devenir fou. Il faut comprendre cela, peut-être pressentir cela, n'est-ce pas ? Par sa mort sur la croix, comme je vous le disais, Jésus a fait offrande au Père de tout le créé, jusque dans son opacité la plus infernale, assurant ainsi la Pâque, le passage de toute réalité dans le Logos. Et alors, le Logos, c'est le Verbe, c'est la parole qui porte le monde, qui crée le monde. Et dans chaque chose, il y a une parole de la parole. Et cette parole de la parole que nous ne savons pas entendre, ce Logos qui structure la chose et que nous ne savons pas voir, tout cela, maintenant, nous est offert dans l'Eucharistie. Secrètement, sacramentellement, sous le voile du sacrement, par respect pour notre liberté, et par appel à notre liberté créatrice, pour que nous nous soyons associés à cette christification du monde que nous offre, dont l'Eucharistie nous offre la possibilité. Par là, nous entrons dans la possibilité de travailler à cette époque résurrectionnelle dont nous connaissons maintenant les angoisses et les promesses, jusqu'à ce que la vie absorbe définitivement la mort, quand le Christ glorifié se manifestera à travers la communion des saints. Le Christ tout entier, la tête et le corps, disait saint Augustin. Le monde secrètement transfiguré, c'est le corps de gloire du Seigneur. Cet état dans lequel tout l'humain, tout le cosmique, tout ce qui est corps, tout ce qui est matière, est entièrement pénétré par les énergies, par le feu de l'Esprit. Et c'est à cela que nous introduit l'Eucharistie. C'est à cela que nous introduit l'Eucharistie. Elle nous introduit déjà à travers la croix à ce monde transfiguré. Et c'est ici qu'il faut alors réfléchir un peu sur ce thème du temps. Le temps. préfère mettre l'accent sur l'alpha. Par exemple, le moine traditionnel qui rêve toujours de rentrer dans la condition paradisiaque, n'est-ce pas, et que les léopards viennent lui lécher doucement les pieds, n'est-ce pas, parce qu'ils sentent en lui le parfum d'Adam avant la chute. Et il y a ceux qui mettent l'accent sur l'oméga et qui pensent que, par exemple, n'est-ce pas, il faut réaliser les nécessaires révolutions de la Terre, n'est-ce pas. Et en fait, le Christ est le point central, il est l'alpha. Parce qu'il est l'oméga, il est l'oméga parce qu'il est l'alpha, il est le point central où se récapitule l'histoire, où le temps s'unit à l'éternité. Il faut éviter à la fois la gnose du paradis et la réduction hegélienne à l'histoire, pourrait-on dire. Et déjà, tout est accompli. C'est une des paroles de Jésus sur la croix. Tout est accompli dans la célébration de l'Eucharistie, et il y a une seule Eucharistie à travers le temps, à travers l'espace, et en même temps, tout est encore à accomplir, et c'est cela qui nous est demandé. Dans la réalité divino-humaine de l'Église, dans sa profondeur, où rien ne sépare le ciel et la terre, que l'Église, à cause de l'Eucharistie, non pas à cause de tout le reste, qui peut quelquefois être bien gênant, mais l'Église, à cause de l'Eucharistie, et justement, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le seul endroit où rien ne s'interpose entre Dieu et l'homme. Souvent, on vous dira, l'Église s'interpose. Oui, certains aspects, une trace empirique de l'Église, mais l'Église comme Eucharistie est le seul endroit où rien ne s'interpose entre Dieu et l'homme, entre le ciel et la terre. Partout ailleurs, la mort, d'une certaine manière, finit par s'interposer. Et véritablement, dans la célébration eucharistique, il y a un moment de parousie. Et vous savez que parousie, ça veut dire à la fois attente et présence. C'est le sens chrétien de l'attente. C'est une attente, mais pas une attente vide, une attente pleine, une attente pleine. On attend celui qui est déjà là, on attend celui qui est déjà là. Et la sainteté, d'ailleurs, c'est d'écarter les cendres, d'écarter les scories pour faire monter à la surface de l'histoire, pourrait-on dire, des relations entre les hommes, le feu de l'Eucharistie. L'Esprit réalise la parousie eucharistique du Seigneur, et nous le demandons tout particulièrement dans le Notre Père, que nous disons au cœur de la célébration eucharistique, que ton royaume advienne, que ton royaume advienne. Dire que ton royaume advienne, c'est demander la parousie. Tout de suite, le chrétien devrait être impatient de la parousie. Et nous devenons à ce moment-là des hommes apostoliques, c'est-à-dire des témoins oculaires de la résurrection et de la parousie du Seigneur. Et c'est pourquoi l'Église tout entière est apostolique. Le mémorial se souvient non seulement de la croix, de la résurrection, de l'ascension, mais aussi du second et glorieux avènement. Le mémorial se souvient non seulement de ce passé qui ne passe pas, que l'Esprit nous rend toujours présents, que l'Esprit ne cesse pas de déchiffrer pour nous en Dieu, mais de l'avenir, mais de l'ultime. C'est pourquoi Henri Maroux, quand on lui posait la question, est-ce que vous pensez que la parousie, c'est pour bientôt? Oh, il disait, non, je ne pense pas que ce soit pour demain, mais je sais que c'est pour aujourd'hui. Et je crois que c'est cela qu'il faut dire, n'est-ce pas? À travers le Christ glorifié à la droite du Père, l'Église intercède en s'intégrant au sacrifice d'unification de la croix. La croix pascale a détruit à jamais le mur de séparation entre Dieu et sa création, et cette brèche, c'est l'Église, cette brèche, c'est l'Eucharistie par laquelle affluent la résurrection, la vie, l'Esprit, et cela sans limite. Nous savons où est l'Église, parce que nous savons où est célébrée l'Eucharistie, mais nous ne savons pas quelles sont les limites de l'Église, n'est-ce pas? Ce qui jaillit de cette unique Eucharistie célébrée à travers le temps et l'espace embrasse l'univers entier jusqu'aux plus lointaines, si l'on peut employer cette expression absurde, jusqu'aux plus lointaines nébuleuses, et bien entendu l'humanité tout entière. Enfin, il y aurait toute une manière eucharistique d'écrire l'histoire de l'humanité, d'écrire l'histoire des cultures, l'histoire des religions depuis Jésus, et avant aussi. Dès maintenant, l'Eucharistie est donc la parousie voilée mais réelle de celui qui vient. Lorsque dans les liturgies d'autrefois, aujourd'hui c'est un rite, n'est-ce pas, qui n'est plus réalisé, le diacre demande la fermeture des portes. En Église orthodoxe, on ferme les portes d'iconostase. c'est pas du tout ça, n'est-ce pas? Il s'agit de fermer les portes de l'église, n'est-ce pas? Lorsque le diacre demande la fermeture des portes, alors les liturgistes byzantins nous disent ce sont les portes de l'histoire qui se ferment tandis que s'ouvrent les portes du royaume. Celui qui alors reste dans l'église, les autres, on les met à la porte, il faut bien le dire quand même. Les portes, et les catéchumènes s'en vont, les catéchumènes, les pénitents. Restent seulement les initiés, n'est-ce pas? Pas pour eux. C'est ça qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? C'est que ceux qui vont recevoir cette puissance de vie, c'est pour le monde. Ils sont appelés à être les prophètes, les rois et les prêtres de la vie universelle et de l'entière humanité. Mais alors, celui qui reste alors dans l'église, il entre dans l'ultime. Il entre dans le jugement. Il accepte d'être jugé. Et nous voyons très bien que dans au second siècle, par exemple, autour de l'évêque, il y avait les prêtres, le presbytérium, mais comme une communauté qui ne s'est disloquée qu'ensuite, quand il a fallu multiplier les paroisses sans les épiscopaliser. C'est un immense problème, n'est-ce pas? Le presbytérium autour de l'évêque, dans l'Église primitive, ce sont les apôtres siégeant autour du Christ pour juger les 12 tribus d'Israël. Et donc, ceci reste en chaque célébration eucharistique. L'homme accepte d'être jugé. Il accepte d'être jugé, il accepte d'être condamné et il se jette aux pieds du Christ. Les choses saintes sont aux saints, dit le prêtre, et le peuple répond, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Un seul est saint. Car la croix est le jugement du jugement, a dit Maxime le confesseur. Et donc, accepter d'être jugé dans une totale humilité, c'est accepter d'être aimé. C'est entrer dans la communion où nous allons consommer le feu du monde à venir. Et c'est une chose sur quoi insistent beaucoup les pères syriaques, quand ils disent que celui qui mange avec foi le pain eucharistique, il mange avec foi le feu de l'Esprit Saint, le feu de l'Esprit Saint. Et ce qui est admirable, c'est si l'on peut en même temps contempler une fresque, une icône, peu importe, le visage du Christ. Car on voit alors que le juge est devenu l'époux. Très souvent, dans une église orthodoxe, au-dessus des portes royales de l'iconostase, on va communier là, n'est-ce pas? Il y a le Christ juge. Et entre, de part et d'autre, il y a la Mère de Dieu et Saint Jean-Baptiste, c'est-à-dire l'épouse et l'ami de l'époux. Le juge est devenu l'époux. Toute la célébration est tendue vers la venue glorieuse du Christ, quand le voile du sacrement, c'est-à-dire l'histoire et le cosmos, car le pain et le vin, c'est ça, n'est-ce pas? Quand le voile du sacrement s'embrasera et deviendra pure transparence. Il y a donc un caractère dynamique de l'Eucharistie. L'Eucharistie, comme la Pâque juive, d'ailleurs, on devrait la recevoir debout, en marche, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose de clos, c'est une présence attente, c'est une anticipation tendue vers un plus total accomplissement. Et c'est pourquoi c'est l'Eucharistie qui féconde l'histoire et qui fait que l'histoire n'est pas de la zoologie perdue dans les cycles toujours renouvelés, de la violence, l'alchimie, du néant, de la mort, mais qu'elle a un sens. La fin déjà présente dans le pain et dans le vin eucharistique, la fin est déjà présente, non pas comme un rideau qu'on tire, mais comme une immense ouverture de lumière, la fin déjà présente juge et sauve simultanément. Fais que nous communions à toi d'une manière plus intime encore quand tu viendras dans ton royaume, dit le prêtre dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome ou dans la liturgie de Saint Basile. Et donc je dirais que le temps eucharistique est un temps, pour citer ce concile que j'ai cité tout à l'heure, Chalcédoine, qui a dit qui a parlé de l'union sans séparation, du confusion du divin et de l'humain dans la personne du Christ. Le temps eucharistique est un temps chalcédonien. Je veux dire, c'est un temps qui plonge d'une part dans la densité de la vie cosmique, dans toutes les souffrances, toutes les horreurs et toutes les joies de l'humanité, mais qui s'enracine d'autre part dans la liturgie céleste. Dans la liturgie céleste, tout le cosmos illuminé en Christ achève de se transfigurer par la médiation de la véritable histoire qui est l'histoire de la sainteté. Le sanctus des anges y retentit sans cesse. L'Apocalypse, d'ailleurs, ne fait rien d'autre, pour une part, si vous voulez, que décrire cette liturgie céleste qui est le modèle de la première liturgie chrétienne. Les animaux qui sont le cosmos rendent grâce, les 24 vieillards qui sont l'Église, reprennent la louange des anges du trône. C'est cette image de la liturgie céleste que nos liturgies humaines reflètent. Même les morts, qui ne sont pas morts, participent mystérieusement à l'Eucharistie, selon la tradition orientale, le seul lieu où il n'y a aucune séparation et où, par conséquent, on puisse véritablement communiquer avec les morts qui ne sont pas morts, qui sont simplement de l'autre côté des choses, n'est-ce pas ? C'est l'Eucharistie. Et ainsi, la célébration embrasse le divin et l'humain, les anges et les hommes, les vivants et les morts, le cosmos entier, l'histoire et le royaume. C'est donc l'Esprit Saint qui actualise l'économie du salut dans l'Eucharistie, qui transforme les dons, qui intègre les fidèles dans le corps du Christ, le changement du pain et du vin au corps et au sang du Christ, ou la manifestation du pain et du vin comme corps et sang du Christ, cela ne peut se réaliser que par l'Esprit Saint. Et je verrai là deux aspects fondamentaux. Tout d'abord, c'est que le lien de l'Église et de son Seigneur est un lien dénué de toute assurance magique ou orgueilleuse. C'est un lien de prière, de pénitence et d'humilité. Et d'autre part, je verrai là la clé de la symphonie, de la tension symphonique dans l'Église, des ordres, des ministères, y compris, bien entendu, celui de ce qu'on appelle les laïcs, n'est-ce pas ? Je dis ce qu'on appelle laïcs parce que c'est aussi un mot absurde. Laïcos veut dire membre du laos, tout fait, ou du peuple de Dieu. Alors, il est bien certain que tous les évêques, n'est-ce pas, sont aussi des laïcoï, n'est-ce pas ? Mais, bien entendu, on a fini par appeler laïcs ce qui sont rien, n'est-ce pas ? Ce qui ne sont pas évêques, ce qui ne sont pas prêtres, ce qui ne sont pas diacres, ce qui ne sont pas moines, les pauvres, ils sont rien. Mais eux aussi forment un ordre. Premier point fondamental, l'Église ne possède pas magiquement son Seigneur, mais elle le reçoit dans la prière. L'Eucharistie se situe dans la prière. L'Eucharistie est enveloppée par la prière. L'Eucharistie est totalement pénétrée par la prière. La prière est l'essence même de ce qu'on appelle le canon eucharistique, qui est le cœur même, n'est-ce pas, de la célébration. Cette vision se trouve dans la toute première acclamation liturgique qui clôt l'Apocalypse, Maranatha. Maranatha, qui signifie à la fois « le Seigneur vient » et « Seigneur vient ». Ce sont les deux aspects de l'Église. Le Seigneur est là et en même temps nous disons « Seigneur vient ». Le Seigneur est là et ça ne dépend pas de nous. Et en même temps, qu'il vienne, cela dépend pour une part de nous. Il y a les deux aspects de l'Église. La sainteté totale, le Seigneur est là. Et en même temps, l'appel vient, ou le refus, et donc la possibilité du péché. C'est là que nous pouvons comprendre que l'Église est, comme disait saint Augustin, cette prostituée que le Christ ne cesse de laver dans son sang, le sang eucharistique, pour en faire l'épouse sans tache. On a même pu dire que le christianisme était la religion du Maranatha. Dans l'Apocalypse, l'Église voit le Seigneur Dieu et l'agneau, et ceux qui accompagnent l'agneau, n'est-ce pas, les participants de la dernière scène dans leur rôle de représentants du peuple de Dieu, et la nouvelle réalité du royaume. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et cependant, elle voit tout cela, et cependant, elle prie, viens, viens, viens. Cet appel est sans cesse renouvelé, cela donne le ton de la célébration, et la réponse est, oui, je viens en hâte. Réponse donnée par celui qui est déjà venu, qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et d'autre part, l'Eucharistie. Elle est le rassemblement où les charismes surabondent. Elle est elle-même charisme. Mais elle implique l'existence d'un ordre, que tout se passe avec ordre, dit saint Paul. Et donc d'ordre au pluriel. Dans la période néo-testamentaire, les charismes et les ordres sont compris dans une vision eucharistique. Et aujourd'hui encore, normalement, toute ordination doit se faire pendant une célébration eucharistique. Chaque ordination est existentiellement reliée au corps du Christ. Chaque ordination reflète le ministère même du Christ, exprime, comment dirais-je, la grâce du Père, le don de l'Esprit, dans et pour l'unique corps du Christ. Il faut donc penser tout cela en termes de charisme et en termes de grâce qui mettent une personne dans un certain type de relation de service par rapport aux autres à l'intérieur et pour l'unité du corps eucharistique du Christ. L'Esprit distribue les ministères, mais il les tire tous du Christ. Le Nouveau Testament répète que le Christ est le ministre, qu'il est le prêtre, qu'il est l'apôtre, qu'il est le diacre, qu'il est le serviteur, qu'il est l'épiscope, qu'il est le maître, celui qui a en tout la primauté. Et donc tout ministère, tout ordre reflète le ministère du Christ qui se diversifie grâce à l'Esprit. L'Esprit qui est le lien du corps assure la diversité des ministères afin qu'aucun ne puisse être objectivé en lui-même, ne puisse être considéré pour lui-même comme une possession individuelle ou comme une vanité individuelle, mais toujours en relation avec les autres qui forment le corps de l'unique. Et c'est pourquoi, lorsque Paul parle d'une hiérarchie des charismes, vous vous rappelez, il met au-dessus de tout le charisme de l'amour. C'est ce fameux hymne à la charité dans la première épître aux Corinthiens. Or, cet hymne à la charité n'a pas seulement une valeur individuelle, il a une valeur ecclésiale, il a une valeur ecclésiologique. C'est l'hymne à la charité qui définit le rôle du ministère. Le ministère est un aspect du lien de l'amour. Le ministère rend une existence personnelle dépendante des autres selon un certain contexte de relation. Et c'est cela qui nous permet de comprendre le caractère indélébile du ministère. Quand l'amour confère un charisme, il est indélébile, non en lui-même, mais par rapport à la communauté. Dans la célébration, tous sont liturges, tous sont coliturges. Les laïcs sont coliturges à leur place et dans leur ordre, au niveau de l'imploration. Tous prient pour que l'Esprit-Saint vienne pour intégrer le pain et le vin au corps du Christ et pour qu'eux-mêmes soient par là intégrés au corps du Christ. Le prêtre rassemble cette prière, il la prononce au nom de toute la communauté assemblée et la communauté la celle de son Amen. Mais originellement l'évêque, aujourd'hui le prêtre, atteste la fidélité de Dieu dans le Christ dont il est l'image. Donc vous voyez l'articulation, l'évêque, le prêtre et liturge au niveau de l'attestation. Il atteste que quand nous prions l'épiclèse, nous n'attendons pas Godot, mais que véritablement Dieu est fidèle. Et en même temps, tous sont liturges au niveau de la prière, au niveau de l'imploration. Et l'un et l'autre doivent s'accorder. Lui aussi, d'ailleurs, et je pense à l'évêque, je pense au prêtre, dans l'humilité, dans la pénitence et dans la prière. Car il y a des épiclèses personnelles que dans les anciennes liturgies, le prêtre ou l'évêque dit sur lui-même pour que la fidélité de Dieu ne soit pas en quelque sorte offusquée par sa propre indignité. Il y a là quelque chose de tout à fait important aussi. La relation du prêtre, de l'évêque au Christ, est une relation donc de correspondance iconique, pourrait-on dire. Le prêtre est le, pour parler grec, le typos, la figure du Christ, la figure et le témoin de sa présence. Saint Jean Chrysostome dit la figure du prêtre véritable, alter Christus, n'est-ce pas, ton traduit. Je conclus sur quelques conséquences. Tout d'abord, ecclésiologique, n'est-ce pas. Nous redécouvrons aujourd'hui, c'est une chose qui a marqué l'ecclésiologie orthodoxe contemporaine, et c'est une chose qui s'est introduite très profondément dans l'ecclésiologie catholique avec la constitution sur l'Église de Vatican II, n'est-ce pas ? Nous redécouvrons ce qu'on pourrait appeler l'ecclésiologie eucharistique. Et nous voyons bien dans le Nouveau Testament qu'il y a une seule assemblée eucharistique dans le même lieu, si vous voulez, dans la même agglomération. Bien sûr, à l'échelle de nos mégapoles, ça ne marcherait plus, il faut penser les choses autrement. Mais l'idée est que l'Église, qui est en un certain lieu, se rassemble dans l'Eucharistie. Et elle n'est pas, à ce moment-là, une province de l'Église. Elle n'est pas, à ce moment-là, un petit morceau de l'Église, avec un fonctionnaire qu'on enverrait, avec un préfet qu'on enverrait pour gouverner ce petit morceau de l'Église. Elle est l'Église de Dieu, une sainte catholique et apostolique, qui se manifeste pleinement dans le rassemblement eucharistique. Le rassemblement eucharistique est l'attestation et la manifestation de l'Église entière dans sa catholicité. L'Eucharistie figure l'intégration de la multitude en un seul. Et les hommes entrent comme un chaos dans l'Église, comme un chaos, et ils sont intégrés dans le corps du Christ. Et c'est le miracle de l'Eucharistie. Et c'est là que nous sortons de toutes les impasses, de toutes les apories sociologiques. Est-ce que l'Église est une démocratie, est une monarchie, est une aristocratie? Elle n'est rien de tout cela. Elle est corps du Christ. Elle est le corps du Christ. Et elle se réalise corps du Christ dans l'Eucharistie. Et c'est l'originalité des premières assemblées chrétiennes, et qu'il n'y avait en elles aucune discrimination de sexe, d'âge, de profession, de conditions sociales, de race, etc. Je me souviens justement d'un colloque qu'avait organisé Dominique Ponneau sur le repas pascal. Après, une personne très cultivée, si je ne me trompe, historienne de la Rome antique, a posé la question, mais en quoi est-ce que ces rassemblements, ces premiers rassemblements chrétiens, différaient des innombrables congrégations qui pouvait exister dans le monde romain de la même époque. Et la réponse ne pouvait être que cela, parce que ces congrégations étaient spécialisées, s'y rassemblaient des gens d'une certaine profession, d'une certaine condition. Mais c'est seulement à l'intérieur des communautés chrétiennes qu'il y avait vraiment des gens jeunes et des vieux, des hommes et des femmes, des maîtres et des esclaves, des citoyens et des métèques. Ça n'avait aucune importance. Et ça, c'est absolument fondamental. Et quand on vous dit, oui, mais le christianisme n'a pas supprimé l'esclavage, mais il l'a supprimé, là, dans ses communautés, dans la pratique de ses communautés. Puis après, il a fallu longtemps pour que ça s'inscrive dans la réalité, dans la chair de l'histoire. Mais tout était donné là. Et c'est l'originalité. L'Eucharistie transcende toute séparation, toute division, qu'elle soit sociale, familiale, naturelle. Et toutes ces communautés locales s'identifient dans l'unicité de l'Eucharistie. Chaque communauté locale, c'est l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Et alors, une communauté, plus une, plus une, plus une, plus une, c'est toujours la même Eucharistie. Et donc, c'est l'Église. Et c'est l'Église, alors, dans son universalité, à travers le temps et l'espace. Et c'est un petit peu aussi une analogie de la communion trinitaire. Et l'Eucharistie, bien entendu, postule l'épiscopat. Parce que pour qu'il y ait Eucharistie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui préside l'Eucharistie à la place du Christ. L'évêque est avant tout celui qui transforme une assemblée en église de Dieu par l'attestation de la venue eucharistique du Christ. Et le ministère doctrinal de l'évêque se dégage de la présidence de l'Eucharistie, parce que ça fait partie de l'Eucharistie qu'on y annonce la parole de Dieu et qu'on lui fasse écho. L'évêque ou le prêtre qu'il représente annonce et interprète la parole et célèbre son accomplissement ultime dans l'Eucharistie, car comme disait Irénée de Lyon, notre doctrine est en accord avec l'Eucharistie et l'Eucharistie la confirme. La manifestation plénière de l'Église une, sainte, dans la communauté eucharistique locale exige que cette communauté soit en communion avec toutes les autres. Et ainsi va jouer la collégialité ou synodalité de l'épiscopat, la conciliarité permanente de l'Église. Il y a là une ecclésiologie de communion qui nous permet alors de penser autrement le thème du pouvoir dans l'Église, sur lequel Jésus est tellement dur, n'est-ce pas ? Les grands de ce monde se font appeler bienfaiteurs, etc. Mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, que le premier soit comme le dernier, etc. Eh bien, le thème du pouvoir s'interprète comme un thème de service et d'accord des communautés eucharistiques. La communion des communautés eucharistiques locales va se structurer par tout un ensemble de centres d'accord. Ça peut être dans l'église ancienne, la métropole, n'est-ce pas, avec un métropolite ou métropolitain, n'est-ce pas. Ça peut être une vaste région culturelle avec un patriarche et, à la limite, un centre d'accord universel dont l'évêque préside à l'amour, comme disait saint Ignace d'Antioche dès le début du second siècle, à propos de l'Église de Rome. De même que dans la Trinité, pourrait-on dire, le Père assure l'unité sans rompre l'égalité parfaite des trois, de même dans la communion des Églises parfaitement égales dans la réalité eucharistique, la primauté ne peut être que service, icône, mise en branle de la co-responsabilité, service de la communion de toutes les églises, icône de leur unité, organe de leur universalité missionnaire. Ecclésiologie eucharistique, spiritualité eucharistique. La vie ascétique, la vie spirituelle, ça n'est rien d'autre que la prise de conscience grandissante de la plénitude que tous reçoivent et que tous peuvent pressentir dans la célébration de l'Eucharistie. C'est pourquoi, d'ailleurs, il est très important que la célébration de l'Eucharistie soit une célébration de beauté. Non pas n'importe quelle beauté, non pas une beauté de possession, mais une beauté de communion. La beauté qui crée toute communion. Comme disait Denis Lariopagitka, par l'expérience de la beauté, tous vont déjà pressentir la présence du royaume, l'affleurement du royaume. Mais il s'agit, bien entendu, ensuite, comme je vous le disais, de devenir un homme eucharistique. Et la prière, et plus particulièrement la prière de Jésus, la prière du cœur, c'est comme une eucharistie intériorisée. Le cœur absorbe le Seigneur, et le Seigneur absorbe le cœur. Le martyr, et le martyr, vous savez, c'est la première et fondamentale extase chrétienne. In spiritu et in ecstasy, dit le texte quand il parle de félicité et de perpétu, qui étaient dans l'extase de l'esprit, de sorte qu'à un moment donné, elles n'ont pas senti la souffrance quand les bêtes les ont malmenées, mais pas tuées, et qu'il a fallu ensuite les passer au fil de l'épée, n'est-ce pas ? Le martyr est moulu par la dent des bêtes et il doit se transformer en vivante Eucharistie. Les textes les plus anciens le disent très nettement, en particulier le martyr de Saint Polycarpe, par exemple, qui, lorsqu'il était brûlé, était devenu comme un pain bien cuit, dit le texte. Ignace d'Antioche, dans sa lettre aux Romains, quand il disait « Laissez-moi être moulu par la dent des bêtes pour devenir comme une farine, et cette farine qui va, par le martyr, devenir le pain eucharistique. » Cette spiritualité va déceler dans les rencontres humaines, dans la relation de l'homme et de l'univers, d'infinies potentialités eucharistiques. En toute chose, faites Eucharistie, dit saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, et c'est peut-être la meilleure définition de la vie chrétienne. Le Christ invite à manger son corps au moment où, dans la tradition juive, celui qui présidait le repas pascal rendait grâce au Seigneur, le roi de l'univers qui a fait germer le pain de la terre. De même, il a invité à boire son sang au moment où le président, bénissant la coupe, rendait grâce au Seigneur qui a créé le fruit de la vigne. Et l'Église a donc vu très tôt la création tout entière dans les éléments eucharistiques. Et ça nous renvoie à la christologie cosmique de l'Épître aux Éphésiens, de l'Épître aux Colossiens. Le Christ n'est pas seulement le premier-né de beaucoup de frères, comme dit l'Épître aux Romains, mais le premier-né de toute la création, comme dit l'Épître aux Colossiens. Toute la création veut retourner à son Créateur, et cela s'exprime dans beaucoup de prières eucharistiques traditionnelles. Si le Christ a restauré par son sacrifice la véritable relation entre le monde et son Créateur, cela signifie qu'il nous faut envisager la place de l'Église dans le monde à la lumière de l'aspect sacerdotal de l'Eucharistie. L'Église va agir dans le monde comme le prêtre de la vie, comme le prêtre collectif de la vie, comme le prêtre du monde. L'Église, les chrétiens, doivent prendre dans leurs mains le monde et l'offrir à Dieu. Et c'est pourquoi on peut parler du sacerdoce royal des fidèles. Dans cette vision de l'Eucharistie, le monde reçoit une signification sacramentelle et il cesse d'être un domaine séparé de l'Église. Il n'y a plus de séparation du sacré et du profane. Il y a ce qui n'a pas encore été béni par l'Eucharistie et ce qui est béni par l'Eucharistie, et tout doit être eucharistié. Et c'est le chrétien qui est appelé à cela. Dans l'Eucharistie, nous recevons une nature humaine réunifiée, conforme au mystère trinitaire de l'unité dans le multiple. Et nous sommes appelés ensuite à formuler, à vivre, à servir, ce que j'appellerais le dogme social de la communion ontologique de tous les hommes et du caractère unique, irréductible et absolu de chaque personne. Un philosophe religieux du siècle dernier disait « Notre programme social est la Trinité ». Et il disait « Il faut célébrer l'Eucharistie, il faut célébrer la Pâque, non seulement dans le sanctuaire, mais partout ». Et c'est aussi ce que disait saint Jean Chrysostome, quand il disait « Le prêtre est un autre Christ, mais quand tu sors dans la rue, le pauvre est un autre Christ ». Il emploie exactement la même formule. Et ce que tu as célébré dans l'Église, tu vas le célébrer en servant le pauvre, le sacrement du pauvre, le sacrement du frère et la prolongation, l'inscription sociale nécessaire du sacrement de l'autel.